France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous. Rafah sous contrôle israélien ce soir, y compris le poste frontière vers l'Égypte, alors qu'on apprend que des discussions sont en cours à nouveau au Caire entre le Hamas et les médiateurs. Les Américains veulent croire qu'un accord de cessez-le-feu reste proche. L'expert des informés ce soir est le politologue Hassni Abidi. Au menu riche de ces informés également, Jean-Pierre Farandou a-t-il déraillé? Le patron de la SNCF remercié par le gouvernement devant le Sénat. Il assume en tout cas l'accord sur les fins de carrière qui a déclenché la colère de Bruno Le Maire. Nous serons à la Mutualité où les Philippe Bayrou-Borne défilent à la tribune. En attendant, Gabriel Attal et Valérie Ayé, Paul Barcelone nous racontera ce meeting de la majorité pour tenter de se relancer à un mois des européennes. Et puis, pour aller jusqu'au coup d'envoi de PSG Dortmund à 21h, bien sûr, Marseille, qui attend la flamme olympique. Demain, la fièvre des Jeux va-t-elle enfin gagner le pays? Vous poserez toutes ces questions. Les informés, Cédric Clairin, rédactrice en chef à l'Humanité Magazine, Elsa Fressenet, grand reporter aux Échos, et Antoine Maret, journaliste politique à France Culture. Bonsoir et bienvenue à tous les trois.
Bonsoir.
Israël l'assure donc aux États-Unis, son opération à Rafah est limitée. Dixit, la Maison Blanche en tout cas, Benjamin Netanyahou a répété dans une déclaration cet après-midi depuis son bureau son double objectif dans cette guerre, le retour des otages et l'élimination du Hamas.
Israël ne permettra pas au Hamas de rétablir sa domination maléfique sur la bande de Gaza. Israël ne lui permettra pas de rétablir ses capacités militaires pour continuer à œuvrer à notre destruction. Israël ne peut accepter une proposition qui met en danger la sécurité de nos concitoyens et l'avenir de notre pays. C'est pourquoi j'ai donné pour instruction aux négociateurs qui se sont rendus au Caire de continuer à se montrer fermes sur les conditions nécessaires à la libération de nos otages ainsi que sur les conditions essentielles à la garantie de la sécurité d'Israël.
Bonsoir Hassni Abidi.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Merci d'être notre expert sur ce qui se passe en ce moment à Rafah. Opération limitée à Rafah, dit le Premier ministre israélien, mais des chars y sont déployés et l'armée israélienne a pris le contrôle de cette partie palestinienne du poste frontière vers l'Égypte. Comment vous qualifiez-vous cette opération en cours à Rafah ?
Cette opération, d'abord, c'est une entorse à une convention, à un accord de paix très important, celui avec Israël, mais aussi, c'est pas la première fois où les chars israéliens arrivent à ce territoire qui est normalement protégé par un accord depuis 2015. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, Israël contrôle le seul accès aujourd'hui disponible pour Gaza avec le monde extérieur, avec un nombre très important de malades qui ont besoin parfois de soins à l'étranger, mais aussi militaires. Sur le plan stratégique, évidemment, Israël veut montrer sa capacité à occuper ce qu'on appelle l'axe Philadelphie. L'accord, d'ailleurs, porte l'accord de Philadelphie. C'est un axe qui sépare Rafah côté palestinien, de côté égyptien. Et généralement, cet axe est contrôlé du côté palestinien par les Palestiniens et de l'autre côté par l'Égyptien. Aujourd'hui, Israël prend possession de cet accès. Dernier élément, c'est que finalement, c'est très difficile de concilier des négociations, surtout celles qui débutent aujourd'hui au Caire, avec l'occupation de postes de Rafah ou la continuation de ces opérations qui ont visé, c'est vrai, que deux quartiers importants. Maintenant, l'objectif affiché par Benjamin Netanyahou, c'est la libération des otages, le retour des otages, qui est, à mon avis, un objectif légitime. Sauf que nous avons sur la table une acceptation d'un accord, certes avec qui a besoin de certains amendements, mais qui offre aux Israéliens, avec la garantie américaine, le retour graduel de tous les à la maison. Donc finalement, est-ce que finalement Benjamin Netanyahou dit vrai? Est-ce qu'il vise vraiment le retour des otages avec une opération militaire ayant des conséquences terribles sur les terres, mais on n'est pas certain vraiment que cette opération va conduire à la libération des otages.
Vous dites certains amendements, les Américains disent qu'il reste certaines lacunes. Est-ce qu'on peut essayer de préciser ce qui manque pour obtenir cet accord? C'est toujours cette notion de cessez-le-feu permanent qu'ont voulu glisser dans l'accord, si on peut dire, les membres du Hamas, les négociateurs du Hamas, et qui évidemment gênent les Israéliens, c'est ça?
D'abord, il faut clarifier un élément important. L'offre qui a été acceptée par le Hamas, elle n'est pas son offre. Le Hamas a évidemment proposé des articles. Il faut rappeler aussi que les Israéliens n'ont pas envoyé de délégation à Doha. Ce sont les Américains qui ont négocié en présence de William Burns, le chef de la CIA. Donc les États-Unis étaient consultés d'une manière permanente sur cette mouture qui a été proposée par le Hamas. Ça, c'est le premier élément. Les Égyptiens et les Qataris ont amendé cette proposition qui, à la base, vient de Washington, mais aussi les Israéliens ont préparé. C'est souvent le cas dans des négociations. C'est-à-dire qu'on essaie de répondre finalement aux exigences de toutes les parties. Il y a quelques points importants. On a bien vu le discours de M. Benjamin Netanyahu, il va plus loin. Maintenant, il parle de la... comment peut-on s'assurer que le Hamas ne contrôle plus Gaza, donc ce qu'on appelle le jour d'après. Alors que cette question n'a jamais fait l'objet finalement des négociations. Les négociations ont toujours pour objectif une trêve contre libération d'otages. Mmh. Ça, c'était toujours été l'objectif. Il y a ce mot sur l'accalmie durable. L'accalmie durable vient plutôt de négociateurs israéliens et qui a été, après moult négociations, accepté par les Palestiniens, par le Hamas, qui voulait plutôt un cessez-le-feu durable, un cessez-le-feu permanent. Ce cessez-le-feu n'arrivera pas que dans la deuxième phase ou la troisième phase, selon la mouture. Ça, c'est un important. Et aussi le retrait des forces israéliennes, le Hamas au début voulait absolument un retrait total, un désengagement total des forces israéliennes. Dans la proposition d'hier, acceptée par le Hamas, mais aussi acceptée par les Américains, puisque les Américains sont les garants de cet accord, le Hamas accepte un retrait graduel, puisque nous avons trois phases, et chaque phase est liée à la première, c'est-à-dire il n'y aura pas d'avancement dans la deuxième, si la première n'a pas donné ses objectifs. Oui. Par exemple, la libération de 33 otages israéliens. Les Israéliens veulent absolument que ce soit d'abord l'identité claire, 33 plutôt vivants et pas une partie et les autres morts. Donc, je dirais que ce sont des amendements qui ne touchent pas le fond de négociation, qui est une trêve humanitaire. Et pas encore ce cessez-le-feu, il viendra plus tard, et le retour d'une partie des otages.
Il y a clairement plusieurs étapes, mais qui se négocient finalement ensemble. Vous restez avec nous, Assia Abidi. Les informés autour de la table ont des questions pour vous. Ce sera après le fil info, puisqu'il est 20h10, Stéphane Milhomme.
Il faut au PSG une victoire avec 2 buts d'écart. L'enjeu de la soirée pour accéder à la finale de la Ligue des Champions. C'est à 21h le match retour de la demi-finale. Match aller remporté 1-0 par les Allemands du Borussia Dortmund. Emmanuel Macron a discuté avec Xi Jinping de la question des droits humains, en particulier quelques cas individuels. Une annonce de l'Elysée alors que les deux chefs d'État ont passé la journée dans les Pyrénées à près de 2000 mètres d'altitude. Dernier jour de la visite du numéro 1 chinois en France. Deux femmes mises en examen, soupçonné d'avoir tagué hier la vitre du tableau L'origine du monde de Gustave Courbet. C'était au musée Pompidou à Metz. Une des 5 œuvres taguées pourrait avoir été atteinte dans son intégrité. Selon le procureur, elle n'était pas aussi bien protégée. Du monde ce soir sur la route, c'est le pont du 8 mai avec toujours un cumul de 500 km de bouchons selon Bison Futé dans l'Hexagone, notamment la sortie de l'Île-de-France, la 86, la 10, la région lyonnaise, l'autoroute A7, c'est rouge. Ce soir, orange demain et dans toute la France.
France Info. 20h, 21h. France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Pressonné est là pour les échos. Antoine Marette pour France Culture. Cédric Clairin pour l'Humanité Magazine. Et Asni Abidi avec une question pour vous, Asni Abidi, d'Elsa Fressonnet des échos.
Oui, est-ce que vous pensez que les deux parties, à savoir le Hamas et le gouvernement israélien, ont fond envie de conclure un accord ou pas?
Écoutez, le Hamas hier a donné son accord et il est sous une pression très importante de la part des Égyptiens et du médiateur qatari. Les Qataris sont dans une pression inédite, à tel point qu'ils réexaminent leur médiation. Ils sont crédibles, à mon avis, et ils savent très bien que sans accord de la part du Hamas, les Américains vont leur demander de fermer le bureau du Hamas. Et puisque ce bureau a plutôt il est fonctionnel, il est ouvert pour une fonction, négocier avec le Hamas et d'arriver à un accord. Donc ça, c'est une pression, et le Hamas, d'ailleurs, c'est pourquoi vous avez remarqué, au retour à Doha, le chef du Hamas a téléphoné à l'émir du Qatar pour contrôle cet accord. Donc ils ont intérêt. En plus, il y a une fatigue, et ils veulent offrir une sortie aux Gazaouis qui sont épuisés. Et le dernier élément important, c'est que le Hamas a aujourd'hui une scène terrible. C'est Gaza ressemble à un champ de ruines. S'il vraiment il tient à avoir un avenir politique avec le Fatah ou avec le OLP ou sous une autre direction, etc., il a intérêt à accepter l'offre. Puis ça va lui garantir finalement un avenir politique. Sinon, Israël a montré sa capacité à occuper entièrement le territoire, donc la bande de Gaza. En revanche, pour Israël, je ne suis pas certain. Je dirais même qu'il y a une division. Je crois qu'aujourd'hui, le président Biden est dans une situation embarrassante parce que l'administration Biden a accompagné les négociations, l'accord cadre Paris 1 à Paris 2 et aussi à Doha et bien sûr au Caire. Et donc, elle a donné son feu vert à cette mouture. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahu ne veut pas l'accepter ou veut l'amender. Mm. C'est une situation inconfortable. On sait qu'une partie, en tout cas, Monsieur Benjamin Netanyahu est probablement extrémiste, veut plutôt la continuation de cette guerre, l'anéantissement total du Hamas, et on sait que cet objectif est très difficile, la libération aussi des otages. Je dirais plutôt, le Hamas tient à sa survie politique, et aussi Benjamin Netanyahu tient aussi à sa survie politique, mais chacun emploie une méthode différente.
C'est clair. Question d'Antoine Marette de France Culture.
Oui, je voulais vous faire réagir à cette phrase du porte-parole du gouvernement israélien aujourd'hui. La seule fin possible, c'est que le Hamas dépose les armes et rende les otages. Le Hamas au pouvoir n'est pas une option pour Israël. Là, en quelque sorte, il referme la porte à tout accord possible. Est-ce qu'il n'y a pas une part de bluff? C'est-à-dire faire monter les enchères pour un accord plus favorable à Israël, ou c'est un non définitif?
C'est très difficile. Je comprends les gens israéliennes, mais il est très difficile quand vous avez un partenaire en face, donc de négocier pour son départ définitif, de négocier sur sa mort. Aujourd'hui, le Hamas, les Américains négocient d'une manière indirecte avec le Hamas, les Israéliens aussi. Et la question même du jour d'après, l'Égypte n'a jamais apprécié le Hamas. Il est considéré comme une organisation terroriste. Pourtant, c'est les services de renseignement égyptiens qui négocient avec le Hamas. Et personne ne veut parler de cette Gaza le jour d'après, parce que cette question politique, elle est encore plus compliquée que la question d'une trêve humanitaire contre la libération d'otages. Mais moi, je pense que l'avenir, en tout cas, si on arrive à une trêve humanitaire, le Hamas est obligé à trouver une autre formule pour sa survie politique, c'est-à-dire l'abandon définitif de l'action militaire, se dissoudre probablement dans une autre entité beaucoup plus importante. Et certains voix à l'intérieur du Hamas disent qu'il faut maintenant songer finalement à une participation politique et accepter donc une autorité palestinienne revisitée. Ça, c'est une. Mais c'est reste la musique d'avenir, parce qu'aujourd'hui, nous avons une urgence, c'est celle de la trêve humanitaire et le retour des otages.
Hassani Abili, je reviens au blocage du poste frontière par les Israéliens. Qu'espèrent-ils, les Israéliens, dans cette affaire? Est-ce que vous souscrivez à ceux qui disent que c'est une façon pour eux de faire le tri parmi les humanitaires? Le résultat, quand même, c'est ce que disent les agences de l'ONU, c'est que ça a pratiquement sevré l'enclave palestinienne d'aide extérieure.
C'est toujours considéré pour Benjamin Netanyahu comme une victoire. Et il cherche ces trophées avec les brigades d'Al-Qassam, le bras armé du Hamas, mais il n'a pas réussi jusqu'à ce jour. Et donc, voir les chars israéliens contrôler un poste frontalier qui a toujours dépendu de l'autorité du Hamas, c'est comme une percée. Et Benjamin Netanyahu a besoin de ça. Il pense qu'évidemment, avec ce contrôle de Rafah, de poste de Rafah, de poste de passage, il va exercer une pression sur les négociations en cours. Le risque, c'est qu'on peut revenir finalement au premier carré et que le Hamas aussi va se sentir un petit peu brusqué ou finalement pas contraint à entrer en matière dans les négociations. La pression, elle a été déjà exercée et elle a donné des résultats qui certes ne sont pas au même niveau demandé par les Israéliens, mais moi je pense qu'il y a des progrès, et notamment la question de désengagement partiel et aussi l'abandon d'un cessez-le-feu permanent tout de suite lors de la première phase. Et il faut revenir et à mon avis insister sur cette gradualité dans cet accord. Les Égyptiens l'ont bien négocié, ils ont une grande expérience. C'est que finalement cet accord, il est évolutif. On peut construire à partir de cet accord et arriver à un accord plus acceptable, disons, par toutes les parties.
Mais juste sur ce point humanitaire, ça veut dire qu'Israël assume d'affamer toute cette population. C'est ça le sens de ma question.
On
Avec
est d'accord.
Avec tous les risques que ça comporte.
Si l'autre poste, donc, c'est-à-dire le point de passage Karam Abou Salem, reste fermé, puisqu'elle a été fermée depuis 2 jours, après un incident, mais qui n'est pas lié à ce point de passage, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'existe aucun point de passage ouvert. Ça veut dire que la situation humanitaire va s'aggraver. La famine va augmenter après quelques améliorations timides au niveau plutôt médical, puisqu'on a maintenant quelques unités mobiles, des unités médicales mobiles qui remplacent les hôpitaux qui sont hors état de service. Et donc, ça, c'est vrai, c'est une question humanitaire et évidemment, contrôler le point de Rafah, le point de passage de Rafah, c'est augmenter les souffrances des Gazaouis.
Merci beaucoup Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Vous êtes aussi chargé de cours d'ailleurs à l'Université de Genève. Merci pour tous ces éclairages. Je voudrais qu'on dise un mot, Antoine Maret, alors je vois que Gabriel Attal s'exprime, on sera au meeting de la mutualité dans un instant, mais cet après-midi à l'Assemblée, il est revenu sur les conséquences de ce conflit en France et c'est un sujet qui est évidemment récurrent, il en a parlé aussi hier soir, en évoquant les actes antisémites.
Oui, il a évoqué cet après-midi les, je cite, indignations sélectives, donc ceux qui sont sans voix face au Hamas et à ses exactions, et ceux qui sont contre Israël. Il a clairement nommé également hier l'islamisme, ainsi que la France insoumise. Et là, on est dans une situation un peu compliquée, parce que la crainte en France, c'est qu'il y ait une exportation du conflit à la fois dans le débat politique, c'est déjà le cas, notamment avec la France insoumise, et puis également dans les universités, les grandes écoles.
Cédric Clairin, sur ces prises de position, et on verra tout à l'heure, Paul Barcelone nous dira ce qu'il en est sur le discours, pour les Européennes évidemment, mais du Premier ministre sur ces questions, sur son implication sur ce sujet-là.
Il y a en effet un discours politique très fort, parce qu'on parlait de silence sur les exactions du Hamas, bon, c'était il y a 7 mois, tout le monde s'est à peu près exprimé là-dessus, donc c'est plus vraiment le débat, donc il y a quand même une espèce de focalisation de cette... La France insoumise, on peut reprocher beaucoup de choses, mais ils ont dénoncé les exactions du Hamas et ils le font dans toutes les interviews. Donc il y a aussi de l'instrumentalisation politique.
Ils l'ont fait tardivement, mais une partie le font en tout cas, oui.
Sans parler de terrorisme.
Si, ils le font. Oui, mais ils parlent de crimes de guerre. Enfin, ils argumentent comme ils veulent, mais bon, ben, voilà, moi, je ne pense pas qu'il y ait une ambiguïté aussi importante que ce qui agite le débat depuis 6 mois.
Chez tous les insoumis, pour vous. Par contre, il y a zéro ambiguïté chez tous les insoumis.
Il y a juste ce truc entre terrorisme et crimes de guerre, et effectivement, c'est un débat sans fin sur terrorisme.
Mouvement de résistance aussi, Daniel Obono.
C'est pareil, à force de le répéter, il faut se souvenir, Daniel Obono a dit qu'il se considérait comme un mouvement de résistance. Elle n'a pas dit qu'elle les considérait. On peut dire, voilà, donc c'est... bref, donc je pense que le débat n'est pas là, il se focalise là-dessus, et Gabriel Attal est d'autant plus fort là-dessus que la réponse diplomatique est très très faible sur Rafah. Il y a 2 mois, le président Macron s'exprimait dans l'Humanité pour dire que Rafah, pour lui, était un point de rupture. Là, on a les États-Unis qui sont autour de la table, qui réussissent à arracher un accord, qui donnent des garanties, etc., pour avoir un accord, donc ils s'impliquent plus qu'ils ne l'ont jamais fait depuis 7 mois. La France se dit préoccupée par la situation à Rafah. C'est très très faible diplomatiquement, alors qu'il y a une semaine ou deux, c'était peut-être qu'on va déclarer, qu'on va reconnaître l'État de Palestine, etc. Là, on est très faible, donc on est d'autant plus fort sur le débat intérieur, qu'on participe à faire mousser d'ailleurs, qu'on est faible sur la réalité internationale.
Allez, on referme cette grande partie concernant la situation à Rafah et ses implications en France. On va parler de la SNCF, de Jean-Pierre Farandou après le fil info. Stéphane Milhomme, 20h22.
Judith Godrèche présentera un court-métrage au Festival de Cannes. Ce sera le 15 mai. Son nom, moi aussi, dans ce documentaire. Et après avoir parlé il y a quelques mois, elle entend mettre en lumière d'autres témoignages de victimes de violences sexuelles. Judith Godrèche, devenue l'un des fers de lance du mouvement MeToo en France. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, se réjouit d'une nouvelle étape décisive dans la relance du nucléaire. Le gendarme du nucléaire donne son feu vert à la mise en service du réacteur EPR de Flamanville dans la Manche, étape clé dans le lancement progressif de la production d'électricité prévue au cours de l'été, mais après 12 ans de retard. Marion Maréchal annonce sa venue demain pour la fête de Jeanne d'Arc à Orléans. Dans un communiqué, la municipalité déclare qu'elle n'est pas la bienvenue et l'assure. Les fêtes de Jeanne d'Arc, depuis toujours, refusent toute récupération politicienne. Marion Maréchal, candidate aux européennes pour le parti Reconquête d'Éric Zemmour. Un nouveau voyage pour Emmanuel Macron à Marseille. Le président de la République sera demain sur le Vieux-Port à l'occasion de l'arrivée de la flamme olympique et avant la traversée de 450 villes.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Cédric Clairin de l'Humanité Magazine, Elsa Fressené des Échos, Antoine Maret de France Culture. Alors un mandat et puis s'en va, Jean-Pierre Farandou quittera donc ses fonctions à la tête de la SNCF après les Jeux, c'est le gouvernement qui l'annonce. Alors il y a une question d'âge et on en parlera, puisqu'il aura 68 ans en juillet 2025, ce qui est la limite pour diriger une entreprise publique. Mais clairement, le patron de la SNCF paye l'accord sur les fins de carrière qui a déclenché la colère de Bruno Le Maire. Lui pourtant assume cet accord, vous allez l'entendre, il a été auditionné cet après-midi au Sénat.
L'encouragement à ouvrir des négociations sur les pénibilités fin de carrière, ça venait de Matignon. C'est Matignon qui conduisait la réforme des retraites et donc tout à fait logiquement, qui avait les contacts avec les partenaires sociaux et qui a souhaité effectivement ouvrir une perspective de sortie de crise en disant les entreprises, les branches et les entreprises seraient bienvenues à ouvrir ce genre de négociations, ce qu'on a fait, puisqu'en tant qu'entreprise publique, on a appliqué la directive qu'on donnait. J'allais dire, virgule, ça tombait bien, on avait un vieil accord de 2008, donc au fond, le moment n'était pas mauvais de tenir compte des trois réformes des retraites successives, Fillon, Touraine et la dernière.
Voilà, on leur demande du dialogue social, et le fait est que lui-même dit, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, et je suis viré.
Oui, il y a quand même eu un peu une mauvaise manière du gouvernement sur le sujet, mauvaise manière qu'on pourra expliquer, hein, mais effectivement, il était question avant cet accord que Jean-Pierre Farandou aille jusqu'à juillet 2025. Après, il est frappé par la limite d'âge et le gouvernement ne voulait pas réformer les statuts, ça se comprend. Mais aille jusqu'à juillet 2025, il se trouve que quand même cet accord de mise en œuvre de la réforme des retraites, effectivement, et Matignon et le ministère des Transports étaient dans la boucle. Bercy n'avait pas à l'être s'agissant d'une question sociale. Mais là où ça a percuté la communication gouvernementale et électorale, c'est qu'on est en pleine période de recherche d'économie partout et que le gouvernement veut encourager le secteur privé à garder les seniors un peu plus longtemps et qu'enfin, dans la perspective des élections européennes, il veut envoyer un signal aux électeurs de droite et effectivement dire que les cheminots partent vraiment trop tôt et en profitent un peu trop, c'est un signal aux électeurs de droite.
Alors, je reprends votre expression, mais mauvaise manière. Oui.
Oui, oui, la mauvaise, la, bon, la mauvaise
et manière. J'allais poser la question à votre voisin.
Ah, pardon.
Mauvaise manière de la part de qui pour vous, Cédric Clairin?
Bah, il y a une mauvaise manière du gouvernement, mais qui est assez ironique parce que on comprend pas bien ce que peuvent faire les syndicats dans ce pays, ni les entreprises. Emmanuel Macron, depuis 2017, a tout fait pour réformer le code du travail pour que ça soit au niveau de l'entreprise où paraît-il, c'est là que la réalité du terrain va pouvoir s'exprimer. C'est ce qui s'est passé. Manque de peau, c'est un peu trop favorable aux salariés. Donc quand c'est pas favorable aux salariés, c'est bien. Quand ça ne l'est pas, ça ne l'est pas bien. On comprend bien que ça percute la communication du gouvernement pour la raison qu'a dit Elsa. Mais en plus, sur la réforme des retraites, effectivement, ça entaille cette réforme des retraites. Mais on voit pas bien pourquoi le gouvernement...
Mais c'est ça le sujet. C'est que ça modifie...
Ça modifie un accord d'entreprise.
Sur les fins de carrière...
Ça fait un accord d'entreprise.
Est-ce qu'on peut en une phrase l'expliciter cet accord, juste pour ceux qui nous écoutent.
C'est simple, ça permet à tous les salariés de la SNCF sur les 9 derniers mois de leur carrière de ne pas travailler, de toucher 75% de leur salaire. Et pour les métiers pénibles, cette période est étendue à 15 mois.
Voilà. On l'a chiffré, alors, ça a été chiffré
Pardon.
Ça représente en termes de budget
Alors, c'est là qu'il y a, une signification politique, elle ne peut pas être budgétaire. Parce que le patron de la SNCF dit que ça coûte 35 millions d'euros. Il faut savoir que la masse salariale de la SNCF, c'est 10 milliards d'euros par an. Et que une négociation annuelle sur les augmentations de salaire comme celle de l'an dernier, c'est 500 millions. Donc là, il ne s'agit pas de chiffres. Il s'agit de politique. Symboles politiques. Mais par ailleurs, là où c'est intéressant sur le contournement de la réforme, c'est que figurez-vous que j'en discutais ce midi avec Elisabeth Borne, donc a quand même conçu cette réforme, et elle considérait pas que la réforme était contournée pour deux choses. D'abord parce que les cheminots avaient eu la fin de leur statut en 2020, ensuite parce que ils ont quand même leur durée de cotisation prolongée de 2 ans, comme tout le monde, et que, bon voilà, et qu'il fallait arrêter les grèves. Mais en tout cas, elle, mère de la réforme des retraites, l'accord ne la choquait pas.
C'est étonnant, ça, cette position d'Elisabeth Borne.
Elle fait partie des noms qui circulent.
Comme un caillou, quand même.
Elle fait partie des noms qui circulent pour prendre la suite. Alors,
elle a déjà été directrice de la stratégie de la SNCF, puis elle semble s'installer en politique.
Oui, alors c'est plutôt...
On cite également Jean Castex.
Jean Castex, plutôt, oui, effectivement, qui est dans le ferroviaire, déjà, qui connaît bien le sujet.
Est-ce qu'il y a d'autres noms, puisqu'on en parle, de successeurs potentiels? Cédric Lérin, Elisabeth Fresnay.
Oui, il y en a
qui est, mais pas connu.
Et moins connu.
Oui, mais c'est intéressant aussi, pour le coup. Alors, Antoine Maretto, je vous laisse poursuivre.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est la réaction du gouvernement qui dit mais non, c'est un télescopage malheureux, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait récemment. Néanmoins, on peut imaginer que finalement le gouvernement joue sur les deux tableaux parce qu'il ne fallait pas de grève avant les JO et c'est ce que Farandou a permis.
A obtenu, oui.
A obtenu. Et donc.
A priori, en tout cas.
Le gouvernement dit on le renouvelle pas, mais quand même. Il reste 3 mois, le temps des JO, donc ce n'est pas non plus un désaveu complet. Et au bout de 3 mois, on verra ce qu'on fait une fois que les JO seront passés et que la menace de grève sera moins impactante.
Ah, vous avez compris, on verra ce qu'on fait dans 3 mois.
Le ministère dit même que ça pourrait aller finalement jusqu'à juillet, donc ça paraît quand même pas très stabilisé cette histoire.
Alors, c'est pas ce que le spécialiste des transports chez nous a compris.
Alors, vous allez nous expliquer ça après le point sur l'info. D'abord, 20h30. Et c'est avec Valentine Lottès.
Une demi-heure maintenant, avant un match très attendu. La demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et les Allemands de Dortmund. Pour accéder à la finale, les Parisiens doivent gagner ce soir avec 2 buts d'écart. Sinon, on félicitera l'adversaire, on sera absolument écœuré et on se relèvera avec l'objectif d'aller en finale la saison prochaine, a déjà lancé l'entraîneur parisien. Les nouvelles menaces d'Israël ce soir, sans progrès sur la libération d'otages, les opérations militaires contre le Hamas seront intensifiées à Gaza. Déjà, depuis ce matin, plus aucune aide humanitaire ne passe puisque l'armée israélienne bloque les points de passage vers l'enclave. 2000 participants à une cérémonie à la mémoire de Matisse cet après-midi à Châteauroux. Cet ado de 15 ans tué il y a 10 jours par un jeune du même âge. Il est depuis mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. À Orléans, Marion Maréchal n'est pas la bienvenue. La mairie le fait savoir ce soir dans un communiqué. La candidate Reconquête aux européennes a pourtant prévu de s'y rendre demain pour les fêtes joanniques de la ville, les festivités de Jeanne d'Arc. Ce n'est pas recevable pour la municipalité de les utiliser, je cite, comme un instrument de propagande. Et puis un court-métrage de Judith Godrèche sur les violences sexuelles sera présenté au Festival de Cannes la semaine prochaine. L'actrice est devenue l'une des voix de la lutte dans le cinéma depuis sa plainte en début d'année contre 2 réalisateurs.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Avec ce soir Antoine Maret, journaliste politique à France Culture, Elsa Fressonnet, grand reporter aux Échos, et Cédric Clairin, rédacteur en chef à l'Humanité Magazine. Alors, on s'est quitté juste avant la pause sur une espèce d'idée pas encore très claire sur est-ce que le scénario du départ de Jean-Pierre Farandou est acté ou pas après les Jeux. Vous aviez l'air de dire, Elsa Fressonnet, que si, Cédric Clairin a semblé dire que ça restait ouvert, d'après ce que vous avez compris.
Ouvert, pas ouvert sur 10 ans. La période qui
non,
est
non,
ouverte.
Mais
alerte, c'est entre
sur les deux ans.
Septembre et juillet 2025. Mm-hmm. C'est-à-dire que le 3 mois après les JO et pas une date butoir qui aujourd'hui est arrêtée. Je pense que pour l'instant, il n'y a ni date ni nom et que le scénario d'aller jusqu'au mois de juillet 2025 n'est pas complètement fermé, ce qui permettra au gouvernement qui n'est pas si pressé que ça de changer, d'avoir peut-être la bonne candidature et que ça rentre dans les agendas de tout le monde et des intérêts de tout le monde.
La version des Échos.
Alors, l'humeur du moment au sein de l'exécutif, selon notre spécialiste des transports Dominique Fin-Silbert, c'était plutôt un départ à la fin de l'été, après les JO, quoi, septembre-octobre.
Est-ce qu'il paye aussi, Jean-Pierre Farandou, les grèves dures des contrôleurs de février dernier, ou on retient quand même à son crédit d'avoir réussi à apaiser le climat avant les Jeux?
Et franchement, Eric Clairin,
on lui reproche tout et l'inverse.
C'est une question.
Effectivement, à l'époque, on lui a reproché, et lui a aussi vertement critiqué ses grèves. Là, il a réussi à les empêcher. En l'occurrence, on pourrait mettre ça plutôt à son crédit, d'avoir réussi, là, pour le coup, à faire un vrai dialogue social sur une question sociale importante.
Il restera quoi du mandat Farandou à ce stade?
C'est un mandat plutôt positif. D'abord, il a eu des crises à gérer, celle du Covid-19. Il y a eu deux grosses grèves en 2020, en 2023. Et puis surtout, il a redressé les comptes de l'entreprise, qui a eu un bénéfice historique en 2022 de 2,4 milliards d'euros et 1,3 milliard en 2023. Alors après, il y a aussi des choses qui sont montrées du doigt. Par exemple, la difficulté pour les trains du quotidien qui ont beaucoup de retard dans les Hauts-de-France, également Paris-Limoges, Paris-Clermont-Ferrand. Les prix des billets qui grimpent aussi. Alors il y a une explication, c'est qu'en France, le prix du billet SNCF, il y a 40% dedans qui est ce qu'on appelle le péage. Alors que dans des pays comme l'Italie ou l'Espagne, c'est seulement 20%. Et puis,
ça, c'est pas un choix stratégique de Jean-Pierre Farandou.
Non, mais il le subit. Mais du coup,
c'est ça qu'on retiendra.
Le prix des billets augmente et les Français le ressentent. Et puis, il va y avoir des défis qu'il va falloir affronter, comme le privé et notamment l'arrivée d'un concurrent, le train, dans l'ouest de la France.
On file à la mutualité.
Jean-Pierre Farandou, c'était quand même le PDG maison monté par Laurent. Je n'exclus pas qu'en concluant l'accord qui a fait bondir Bruno Le Maire, en fait, il espérait peut-être être reconduit. Parce que c'est très rare qu'à la SNCF, vous ayez 4 syndicats qui signent un accord. Bon, voilà.
Surtout qu'il avait été reconduit par le conseil d'administration il y a quelques semaines.
Mot de la fin sur ce sujet. La mutualité, c'est Paul Barcelone qui est là-bas pour France Info. Bonsoir Paul.
Bonsoir Bérangère, bonsoir à tous.
Alors, relancer la campagne de Valérie Ayé, c'est comme ça que c'est présenté ce meeting et Gabriel Attal est à la tribune.
Oui, d'ailleurs c'est assez marrant ce que vous dites parce que je suis frappé d'une chose, c'est cette faculté qu'ont les troupes d'Emmanuel Macron derrière Valérie Ayé, la tête de liste aux européennes qui va s'exprimer là dans les minutes ou dans les secondes qui viennent, à dire que chaque événement de campagne est une manière d'enfin lancer cette fameuse campagne. Il y a d'abord eu le discours de la Sorbonne du président de la République il y a quelques jours, il y a eu la présentation de la liste ce week-end, ou plutôt le week-end dernier, la présentation du programme de campagne lundi, et voilà hier, et voilà aujourd'hui ce meeting, ce deuxième grand meeting de campagne. Toutes les occasions sont bonnes, si j'ose dire, pour dire voilà, enfin on lance la campagne. Pourquoi ? Eh bien parce que cette campagne, elle patine, les sondages sont catastrophiques, ils sont perçus comme tels d'ailleurs par les militants avec lesquels j'ai pu échanger ici. Certains redoutent même la troisième place. On a bien intégré du côté des militants présents ce soir, ils sont environ 3000 à la mutualité où je me trouve, que globalement le Rassemblement National derrière Jordan Bardella apparaît comme irrattrapable et que cette campagne va être très difficile, à moins que Emmanuel Macron, le président de la République, s'en mêle davantage. L'Élysée a promis un moment politique dans cette campagne. Manifestement, ça n'est pas ce soir puisqu'il y a eu des rumeurs, mais Emmanuel Macron n'est évidemment pas là, exactement. Et puis l'autre corde sensible, si j'ose dire maintenant, c'est ce débat. Il aura lieu sur France 2 le 23 mai entre Jordan Bardella et Gabriel Attal. Vous voyez que toutes les occasions sont bonnes pour tenter de décoper, si j'ose dire, et éviter le naufrage le 9 juin prochain.
On ne va pas vous demander de nous résumer toutes les prises de parole, mais qu'est-ce qui vous frappe dans la prise de parole du Premier ministre ?
Alors, celle du Premier ministre, effectivement...
Puisque la candidate ne s'est pas encore exprimée.
Gabriel Attal, hein, qui a parlé de tournant tout à l'heure, qui a félicité d'emblée Valérie Ayé pour son débat, notamment son face-à-face la semaine dernière à la télé avec Jordan Bardella. Valérie Ayé qui souffre à l'évidence d'un déficit de notoriété, qui n'est pas rompu à la joute médiatique et du débat, mais le Premier ministre l'a félicité pour la bonne tenue de cet exercice et de ce duel. Ce n'est que le début de la campagne. Il reste 4 semaines pour faire gagner la France. Nous, on aime l'Europe, on assume de la défendre. Voilà pour ce qu'a dit en substance Gabriel Attal, qui, dans les propositions qu'il a droppées comme ça, égrenées ce soir, parle quand même d'un dôme de fer à l'européenne. Ce qui n'est pas neutre. Il table sur 6 mois pour, dit-il, sortir des griffes du Kremlin et de la dépendance, notamment au gaz russe. L'Europe, c'est notre assurance vie dans un monde qui a changé, dit Gabriel Attal. Vladimir Poutine n'a plus aucune limite. Il parle de la menace du retour également de Donald Trump aux États-Unis. Lui non plus n'a aucune limite, dit encore le Premier ministre, qui donc continue de s'exprimer. Avant lui, il y a eu Elisabeth Borne, Édouard Philippe pour les anciens premiers ministres, Stéphane Séjourné, François Bayrou, ça ce sont les pontes de la majorité. Et c'est donc Valérie Ayé, la tête de liste Renaissance, qui va clore cette soirée tout à l'heure. L'organisation espérait en avoir terminé pour cette soirée avant le coup d'envoi de Paris Saint-Germain-Dortmund, hein. Match retour de la demi-finale de Ligue des Champions, qui est finalement l'autre événement sur toutes les lèvres ce soir ici à la Mutualité.
Merci
mais
beaucoup.
C'est pas gagné.
Merci beaucoup Paul Barcelone, peut-être que vous arriverez à aller le voir, allez, la deuxième mi-temps peut-être. Antoine Maret, c'est compliqué comme job, être le candidat, la candidate d'une majorité qui est un peu à la peine, et a fortiori avec un déficit de notoriété, comme le disait Paul Barcelone.
Oui, alors le déficit de notoriété, souvenez-vous, en 2019, Jordan Bardella l'avait, ce déficit de notoriété, puis ça s'était transformé en bon score, il était arrivé numéro 2.
Mais Nathalie Loiseau l'avait aussi, et ça n'a pas tourné de la même façon.
Ça n'a pas marché. Donc le déficit de notoriété, ça n'est pas la seule explication. Ouais. Puis attention, les sondages sont ce qu'ils sont, mais tout se cristallise pour les européennes, parfois le jour même du vote. Les gens se décident au dernier moment, les gens n'ont pas de...
Ça peut être le cas là, en faveur de puisqu'on est sur ce cas de la liste Renaissance.
En fait, les sondages se sont très souvent trompés pour les européennes. Actuellement, depuis 20 ans, pour les présidentielles, ils sont assez fiables. Pour les européennes, ils se trompent très souvent. Ils n'avaient pas vu venir le bon score des Verts, par exemple.
C'est l'exemple le plus frappant concernant le scrutin d'il y a 5 ans, effectivement. On dit Yannick Jadot qui était dit aujourd'hui, on dit il était à 6.
Et Bellamy qui était sur côté.
Et qui termine à 12.
Oui, alors les sondages peuvent être mauvais sur le score des, entre guillemets, petite liste. Là, avec un écart de 10 à 15 points en faveur du RN.
Les derniers sondages aujourd'hui, c'est 31 pour Jordan Bardella. Et il n'y a plus qu'un point entre...
On a 15 pour Renaissance et 14 pour la liste de Raphaël Glucksmann et du Parti Socialiste. Donc,
il y a des sondages où c'est un peu plus large. Opinion Way, 17-14.
L'écart peut se resserrer un peu, mais le score d'arrivée... Et en tout cas pour le premier, même au sein de Renaissance, on pense plus qu'on va rattraper le RN. Le sujet est de ne pas être doublé par la liste de Raphaël Glucksmann. Et là, la majorité a un handicap par rapport à il y a 9 ans, par rapport à 2019, c'est que à l'époque, elle pouvait dire « nous sommes les Européens ». Les Européens les plus convaincus, etc., etc. Bon, là, ce rôle-là lui est disputé par la liste socialiste. Et par ailleurs, la majorité a un deuxième handicap, c'est qu'elle n'a jamais choisi entre faire une campagne européenne ou faire une campagne nationale de barrage au RN.
Cédric Clairin.
Oui, ils sont en difficulté. Et je pense qu'il y a peu de chances qu'il y ait de surprises sur les sondages. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez permanent dans les sondages, c'est que le socle électoral et sociologique de la Macronie ne cesse de s'effriter, puisqu'il ne reste plus que les seniors aujourd'hui qui sont encore dans une part importante de la population des seniors qui votent, qui veulent voter pour la liste.
Eux, ils votent,
donc certes, mais ça ne fait pas beaucoup et ils sont très faibles. Il faut quand même voir que dans certains sondages, on dit que 2% des 18-30 ans pourraient voter pour la liste du président de la République. C'est quand même incroyable. Alors pour le coup, eux ne votent pas. Donc effectivement, mais ça veut dire quand même que tous les voyants sont au rouge et ils commencent même à perdre chez les chefs d'entreprise, chez les plus de 3000 euros, etc., qui était le socle de leur électorat, où ils commencent à se faire grignoter aussi.
Ils sont en nombre dans l'électorat RN, là.
Voilà.
D'après les sondages.
Ils commencent aussi à aller. Mais il n'y a pas que RN. Et effectivement,
non, mais y a aussi là, ORN,
ils essayent d'installer un duel avec le RN, d'où le débat Attal Bardella, qui visiblement va avoir
23 mai, ouais.
va avoir lieu, ce qui est quand même une curiosité démocratique dans une élection européenne à un tour où il va y avoir une vingtaine de listes en lice. Pourquoi ces deux listes-là,
qu'un premier ministre
choisisse son adversaire comme ça dans un débat, ça pose quand même quelques petites questions.
On aura l'occasion d'y revenir. On va marquer la pause du fil info et on ira au Parc des Princes tâter l'ambiance avant de parler de la flamme olympique qui arrive demain à Marseille. C'est le programme pour la fin des informés, 20h43. Stéphanie l'homme.
Et toujours 350 km de bouchons dans toute la France, en cumulé. Demain sur la route, la journée sera encore compliquée. Bison Futé repeint la carte de France en orange. C'était rouge aujourd'hui dans le sens des départs. Situation compliquée également dans les airs pour les clients de Vueling en France. Un tiers des vols sont annulés demain en raison d'une grève des personnels navigants de cette compagnie aérienne. Pour sa dernière journée dans l'Hexagone, Emmanuel Macron a emmené Xi Jinping dans les Pyrénées, le Tourmalet, pour une escapade qualifiée de personnelle. Le président français a également évoqué la question des droits humains en Chine en mettant en avant des cas particuliers, selon l'Elysée. Au Caire, des discussions sont en cours entre le Hamas et les médiateurs. Benjamin Netanyahou assure lui qu'il a envoyé également une délégation israélienne en Égypte dans l'espoir d'un accord permettant une trêve et la libération des otages. Et puis des étudiants pro-palestiniens annoncent une nouvelle occupation à la Sorbonne de Paris. 80 jeunes ont pris possession d'un amphithéâtre. Ils veulent agir en solidarité avec Gaza. Le 29 avril, les policiers, à la demande du Premier ministre, avaient dû intervenir pour mettre fin à un rassemblement similaire.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Sonia des Échos est là, Antoine Maret pour France Culture, Cédric Clairin pour l'Humanité Magazine. Les amateurs de foot autour de la table.
Un fils qui est accroché à sa radio, à sa télé.
Non, mais la soirée va être difficile pour l'émir du Qatar, parce qu'il faudra regarder d'un côté les négociations Hamas-Israël, l'autre côté la demi-finale de Ligue des Champions.
C'est une façon de voir les choses, effectivement. Alors, peut-être plus, vous êtes plus olympisme que foot. Demain, la flamme arrive donc à Marseille, attendue avec une impatience non dissimulée par Tom, 82 ans.
Et c'est indescriptible parce que c'est énorme. La terre entière, le monde entier, ils ont fixé sur Marseille. Et ça, c'est merveilleux, ça. C'est pas tous les jours, c'est pas tous les ans. Et moi, personnellement, je me dis, j'ai le privilège de voir ça et d'assister à ça, et en plus, dans ma ville. Mais c'est un cadeau que je ne sais même pas d'où ça vient.
Cédric Clairin, le monde entier a les yeux sur Marseille. France Info d'ailleurs aussi, il sera pour une grande journée olympique. Qu'est-ce qui vous laisse penser que cette fois-ci, ça y est, la fièvre olympique peut gagner le pays ?
On va avoir du mal à être affirmatif. Parce que,
bon, qu'est-ce qui pourrait laisser penser ?
Je ne sais pas. Tom, c'est le côté très sympa des JO. Après, est-ce que la France, dès demain, va être le centre des regards mondiaux ? Je ne suis pas sûr. Encore, la flamme va
s'arrêter. Non, mais là, ma question, c'est est-ce que dans le pays, l'arrivée de la flamme, en gros, change quand même la donne et ça démarre ?
Ça doit servir à ça, parce que force est de constater que pour l'instant, c'est un peu du mal à démarrer, que les sujets olympiques, c'est plutôt les sujets transport, tickets de métro, ligne de RER qui marche pas,
difficulté de recrutement des personnels,
difficulté de logement, chasse sociale en Île-de-France. Enfin, c'est quand même pour l'instant la bataille de la com, elle est pas gagnée par les JO. La flamme doit permettre de créer cet engouement. Est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est difficile à dire pour l'instant.
Antoine Maret.
Moi, j'ai un vague souvenir. Vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, Bérangère. Oh, mais Albertville 92. Alors moi, j'étais très très jeune, mais je me souviens...
Mais moi, j'étais déjà beaucoup plus âgé que vous, ça n'a pas changé.
Selon moi, il y avait un engouement beaucoup plus important, il me semble, que maintenant.
Il y avait des menaces sociales aussi, on les a oubliées, mais il y avait une pression sociale.
Je pense qu'on réécrit l'histoire.
Est-ce que c'est pas un peu ça ?
Oui, sauf que maintenant... Voilà.
C'est dans notre ADN de Français, de toute manière, râler jusqu'au moment de la fête. Et on peut espérer que la fête gagne le pays, mais...
Sauf que là, il y a des vraies menaces. Il y a des menaces de désorganisation, des menaces pour la sécurité. Mmh. On a parlé d'attentats islamistes, mais également d'attentats qui pourraient même venir de la Russie. Ça a été évoqué ces jours-ci. Donc là, il y a une véritable angoisse qui n'existait pas au moment des JO d'Albertville, il me semble.
D'Albertville, peut-être
pas. Des menaces de participation populaire aussi. L'engouement, il montrait aussi un peu davantage si la promesse des JO populaires était tenue. Aujourd'hui,
il vous semble que c'est pas le cas. Bah,
nos confrères de l'équipe, il y a quelques semaines, ont chiffré la semaine au JO pour une famille à 6000 euros. On peut pas dire que ça soit très populaire entre le prix des billets qui sont quand même relativement élevés, le prix du logement en Île-de-France qui est absolument prohibitif. Ça fait que de fait, il y a beaucoup de Français qui aimeraient prendre participer à cet événement, qui ne vont pas y participer, et ça joue aussi forcément sur l'engouement un peu partout dans le pays.
En même temps, on a quand même les premiers JO de l'histoire qui vont se faire dans la ville. Et pas dans un stade. C'est un énorme défi, hein, y compris pour les attentes.
Vous parlez de la cérémonie d'ouverture.
Oui, cérémonie d'ouverture.
Oui, la cérémonie. Mais même, on a des épreuves en plein Paris. Pardon, on a des épreuves en plein
exact.
Paris. On a des stades éphémères au Trocadéro, à la Concorde.
Qui sont en train d'être construits pour ceux qui circulent dans Paris.
Place de l'Hôtel de Ville. Donc, on peut regarder de deux côtés la galère côté francilien pour se déplacer pendant les JO. Ou se dire que ça va être une fête mondiale et que voilà.
Cédric et Antoine, on se retrouve après le fil info 20h50, Stéphane Milhomme.
Pour Gabriel Attal, la fin de l'Europe, c'est un danger mortel pour la France. Le credo du Premier ministre a bientôt un mois des élections européennes. Il qualifie le Rassemblement national de membre d'un club des europhobes anonymes. Le chef du gouvernement participe actuellement à un meeting à la Mutualité de Paris avec la tête de liste Renaissance Valérie Ayé. Ce soir ou jamais, au Parc des Princes, le PSG joue sa place en finale de la Ligue des Champions. Le PSG accueille cette fois Dortmund pour le match retour de la demi-finale. Les Allemands l'ont emporté 1-0. À l'aller. Pour la finale, il faut une victoire des Parisiens avec 2 buts d'écart. L'accord sur les fins de carrière à la SNCF est raisonnable, équilibré et utile. Les mots de son PDG Jean-Pierre Farandou, il a été entendu par les sénateurs quelques heures après avoir appris sa non-reconduction pour un second mandat. Il assure que ce texte ne contourne pas la loi sur les retraites. Et puis la disparition du dessinateur Fred De Wilde, ce rescapé de l'attentat du Bataclan, a mis fin à ses jours depuis cette attaque. Il avait publié 3 romans graphiques pour raconter sa vie d'après ce drame du 15 novembre 2015.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Elsa Fressenet des Échos, Cédric Clairin de l'Humanité Magazine, Antoine Maret de France Culture pour parler de cette flamme olympique et peut-être cette fièvre olympique qui arriverait ou pas demain. Au-delà du français ronchon, parce que c'est toujours un peu le, pardon, mais c'est peut-être un peu tarte à la crème tout de toujours revenir à ça. Non, pardon, Elsa Fressenet, vous trouvez que c'est ça le fond du
non, mais enfin bon,
un aspect du sujet.
Moi, je nous adore en tant que peuple et je pense que c'est parce qu'on râle qu'on a aussi un modèle social persistant et assez performant. Donc, ça ne m'étonne pas que avant que les JO arrivent, tous les Français pointaient, bon, on va espérer que les transports soient à la hauteur. Quand même, c'est dommage pour les étudiants de devoir quitter leur chambre pour laisser la place pour les athlètes et ceci et cela. Mmh. C'est normal, c'est notre culture. Après, on est aussi un peuple qui sait faire la fête et c'est vrai que ce que j'ai envie d'espérer, c'est que la fête ne soit pas gâchée, voilà, soit par un attentat, soit par un incident majeur dans la conception des Jeux.
Le fait est qu'en termes de sécurité, ils ont mis les moyens, rien pour la flamme, là, 115 policiers vont accompagner en permanence, en moyenne, cette flamme pendant tout ce parcours. Et je vous parle pas des dizaines de milliers de forces de l'ordre qui sont mobilisées pour les Jeux eux-mêmes.
Mais déjà, c'est un formidable symbole qu'elle arrive par Marseille, qui est quand même une des cités les plus cosmopolites que la France connaisse. Voilà, et puis l'ouverture sur la Méditerranée, quand on voit toute l'actualité absolument tragique
des dernières années de ce côté-là. Voilà, je trouve que ça, c'est un chouette symbole.
Les Jeux, en tout cas, ne vont pas faire fuir les touristes, apparemment. Ça, c'est plutôt une surprise, si les prévisions qui nous sont annoncées sont exactes. Le comité interministériel du tourisme qui était ce matin à Matignon et qui dit que 1,5 million de touristes étrangers sont attendus cet été, ce qui est exactement le niveau, en fait, d'un été normal. C'est plutôt inattendu, ça, Cédric Lerin, non ?
Alors oui, ça dépend, on peut lire ce chiffre de deux manières.
Plus 400 000 pendant les Jeux paralympiques.
Oui. Est-ce que ça veut dire que l'apport des touristes pour les JO nous remettra juste à la barre habituelle ? Auquel cas, ça veut dire que c'est quand même pas un succès extraordinaire.
Ou alors, non, mais il y a tout ce que ça a fait fuir.
Oui, clairement. Mais donc on va être comme d'habitude avec l'événement le plus attractif du monde. Et d'ailleurs, on a voulu cette candidature pour attirer beaucoup de monde chez nous. Résultat des courses, on aura le même nombre de touristes que d'habitude. Mais le vrai apport, en fait, c'est savoir si l'apport populaire va arriver. Parce que quand on parle de 10 à 15 millions de visiteurs, et en fait, c'est les Franciliens qui sont comptabilisés comme étant le potentiel visiteur des Jeux dans tous les événements sportifs, mais extra-sportifs, les lieux de fête, etc. Et donc, c'est moins sur les touristes étrangers en réalité que sur la population française que comptent les organisateurs pour avoir cette effervescence et que comptent les commerçants pour que l'événement soit réussi.
L'événement réussi, c'est quoi pour vous ?
Un événement sans incident, déjà. Je suis un peu le Cassandre, encore une fois. Un événement sans incident et un événement, enfin, créer un événement. Je vous parlais tout à l'heure des JO de 92 d'Albertville. On se souvient de ces chorégraphies découflées, ce moment assez incroyable. Un moment aussi comme...
Tom Marais a adoré Albertville.
Voilà.
Mais c'est vrai que c'était très beau.
Le bicentenaire de 1989.
Vous que les Jeux d'été, il n'y en a pas eu depuis 100 ans, mais bon, c'était quand même l'olympisme en France. En
fait. Il y a eu aussi le bicentenaire de 89, dont tout le monde se souvient, avec Jesse Norman, le défilé de Jean-Paul Goude. Ça, ce sont des moments très forts qu'on n'a pas oubliés 20-30 ans après. Et un événement réussi, ce ne sera pas simplement des performances sportives, ce sera aussi réussir à inventer ce moment-là.
À rendre les Français fiers aussi. Ouais. À rendre les Français fiers aussi, parce qu'ils en ont besoin. Et alors, on ne sait pas grand-chose de la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Mais il se trouve que récemment, pour Les Échos, j'ai fait un sujet sur les mariniers. Et vous allez quand même avoir les athlètes sur des péniches, qui ne sont que des péniches qui travaillent à Paris pour le transport de passagers. Et ces péniches seront de 6 passagers à 800 passagers. Donc c'est toute une communauté portuaire qui a dû se mobiliser pour cette fête. Après, on n'a plus qu'à espérer que les artistes conçoivent un spectacle qu'en mettent plein les yeux. Mais en tout cas, il y a mobilisation d'une partie de la communauté parisienne et c'est intéressant. C'est aussi une première cérémonie sur un fleuve, ça ne s'est jamais fait.
Des résultats sportifs, non, ça a son importance ou pas du tout pour vous dans des Jeux Olympiques ?
Bah forcément.
Bien sûr.
Cédric Lerin.
Bah oui, l'expérience qu'on a régulière, c'est l'expérience des Coupes du Monde de foot.
Je me permets de le dire en souriant parce que personne n'en parle.
Mais oui, c'est personne n'en parle. Bon, évidemment, on sait bien qu'il y a les passionnés de sport qui suivent les premiers tours. Et puis, si ça se passe bien pour les Français, ça va largement contribuer
à
créer une émulation et à faire que ça envahisse éventuellement le pays.
Même quand on n'est pas spécialiste de kayak ou de judo.
Je pense qu'il
n'y
a pas beaucoup
judo.
De gens qui regardent le judo pendant l'année. Par contre, il y a beaucoup de monde qui va regarder Teddy Riner.
Voilà, et en l'occurrence, quand il y a des grosses chances de médailles sur certaines disciplines, ça peut amener un public, clairement, sur ces disciplines. Mais Antoine Maret, je ne sais pas ce que vous avez découvert dans les JO que vous avez connus.
Le ski.
Le ski, le curling, mais il n'y a pas de français.
Je n'aime aucun sport.
D'Albertville, vous avez quel souvenir ?
Le souvenir de cette inauguration, la cérémonie, voilà.
Elsa Fressenet, bon, vous avez des souvenirs de sport, de JO ?
Oui, alors moi, j'étais toute petite, mais c'est gravé éternellement dans ma mémoire. C'est Nadia Comaneci à Montréal en 74. Voilà. 76. Ah, oh, bravo.
On y est presque.
Non, et puis il y a un autre rapport des JO, c'est que les Jeux paralympiques vont aussi se dérouler dans la ville. Et là, pour le coup, c'est une bonne occasion d'augmenter l'intérêt sur ces Jeux-là. Bon, je suis définitivement positive ce soir.
Formidable. Les Échos, demain, la une. Elsa.
Eh bien, nous n'avons pas de journal demain. On se retrouve vendredi.
Pareil pour l'humain.
Mais par contre, il y a un Humanité Magazine.
Alors allons-y.
Consacré aux naufragés de la fibre, à la fois les problèmes de raccordement et la sous-traitance en cascade. Un exemple de libéralisation ratée.
Bon, France Info sera là, Journée Olympique aussi. Demain, journée spéciale. La flamme arrive sur ce navire, le Belém. Il va remonter comme ça la rade de 11h jusqu'à 19h. La transmission à Florent Manaudou, ce sera juste avant les informés. Et nous, on sera là, évidemment, à 20h. Les informés qui sont là aussi demain matin avec Jean-Rémy Baudeau et Benjamin Sportiche. Merci à tous les trois et très bonne soirée. À demain.